scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que je pense de la des écoles Steiner-Waldorf. Bon, il y a eu pas mal de discussions ces derniers temps à ce propos-là dans la communauté zététique sceptique à cause de Grégoire Perrin qui s'est positionné comme étant un grand critique des écoles Steiner-Waldorf et de l'anthroposophie, un peu comme Jacques Van Rielaar s'est positionné comme critique de la psychanalyse, etc. Et la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que bon, j'ai été très actif ces derniers temps on était très occupé pour la rédaction de Zach et Zoé tome 3. Donc voilà, je devais faire un épisode du balado, mais bon, Zach et Zoé m'a monopolisé pas mal de mon temps consacré au scepticisme. Mais donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email, un auditeur du podcast, et il m'a demandé, parce qu'il voulait savoir ce que j'en pensais. Je suppose qu'il a vu que je mettais des critiques de l'anthroposophie ou de des écoles de Steiner, Waldorf, sur Twitter. Je sais pas trop ce qu'il a vu. Sur Twitter, c'est vrai que j'ai eu quelques interactions sur ce sujet-là. Et donc, c'est quelqu'un qui a son enfant dans une école Steiner-Waldorf en Belgique. Pas très loin de chez moi, finalement. Et donc, son enfant est dans cette école-là, il est quand même, sensible à la zététique, et donc il voulait avoir, il me demandait mon opinion sur le sujet, donc je lui ai écrit un email en retour, et en fait, simplement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme épisode du podcast, que je vous le lise, comme ça donne mon approche de cette problématique-là. Oui, à propos de... Avant de ne parler de ça plus avant, pour Zach et Zoé, tome 3, on a terminé la rédaction... Donc là, on a terminé la scénarisation, parce qu'on fait ça à deux, moi et Marius, finalement, des deux premiers chapitres, et Marius est en train de les dessiner. Bon, il a déjà terminé de dessiner le premier chapitre, donc il est actuellement en train de dessiner le deuxième chapitre. Et donc, quand on a terminé deux chapitres, on pourra lancer un nouveau financement participatif. Ça veut dire que le prochain financement participatif se fera début 2020. Hein. On n'a pas encore décidé de date exacte, mais à mon avis, vers février, sauf si on prend du retard particulièrement, pour une raison encore. Mais ça devrait se faire. Et le sujet, je pense que... Bon, j'ai déjà fait un petit teaser sur la page Facebook et sur Twitter, etc. Le sujet, ça va être la fête de Noël. Donc là, ici, je l'aurais dit, vous êtes les premiers à l'entendre, clairement dit. Et maintenant, on l'annoncera avec une vidéo prochainement sur YouTube, qu'on postera un peu partout, sur tous les réseaux sociaux auxquels je suis. Mais donc, oui, ça sera le Père Noël. Donc, c'est vrai que c'était le sujet du Père Noël. Je crois que la première fois que moi et Marius, on s'était rencontrés... c'était le premier sujet qu'on avait voulu aborder, mais en même temps, on trouvait ça un peu... à la fois, c'était un sujet important, mais à la fois, c'était un peu un sujet délicat. Donc, c'est pour ça qu'on avait repoussé ça ultérieurement. Et puis, en discutant, en réfléchissant à quel sujet on voulait faire pour le troisième tome, dans la période où j'étais en train de prendre cette décision, enfin, avec Marius toujours, hein, je fais jamais tout seul, hein, mais on a eu un chat avec Mr. Sam, là, avec ses fans, sur sa chaîne YouTube, et à propos de Zach et Zoé. Et il y avait beaucoup de questions à propos du Père Noël, du fait que le Père Noël était un moyen d'initier les enfants au scepticisme, à la zététique. Je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour cette question, et donc on a décidé de faire ça. Bon, basiquement, l'idée du livre, c'est vraiment de proposer un ouvrage qui accompagne les réflexions des enfants au moment de leur sortie de la croyance dans le Père Noël. D'après un article que j'ai lu de Bronner qui traite de ce sujet, là, en moyenne, les enfants arrêtent de croire dans le Père Noël vers 7 ans. Donc, c'est un livre qui, si vous ne voulez pas, comment dire, briser la magie de Noël, si vous ne voulez pas leur révéler plus tôt, ben, c'est un livre qui sera parfait pour quand les enfants ont 7 ans, au moment où ils sont déjà en train de sortir naturellement de cette croyance. Et sinon, vers 5 ans, comme d'habitude, si vous ne voulez pas entretenir le mensonge autour du Père Noël, plus voilà, sur la longueur, vous pouvez déjà leur lire vers 5 ans. Et on couvrira différents sujets, comme bien entendu, du côté de la folkloristique, les origines du Père Noël, du côté de la contre-apologétique, on va aussi parler de la nativité, hein, puisque on revisitera le sujet de la nativité, de la naissance de Jésus, puisqu'on on en a déjà parlé dans la mythologie chrétienne, mais ça, on a trouvé un autre angle d'attaque. Hein. Ici, on va insister sur le fait qu'il y a deux récits de la nativité dans la Bible, et que ces deux récits sont pas fort compatibles l'un avec l'autre en réalité. Donc, pour ceux qui sauraient pas, qui ne connaissent pas bien la Bible, un des récits, c'est celui où il y a les rois mages qui visitent Marie chez elle, dans sa maison. Et l'autre récit, c'est celui où Jésus naît dans une mangeoire, dans une étable. Et là, à ce moment-là, c'est les bergers qui viennent. Et donc, une crèche où on a les rois mages qui visitent Jésus dans une crèche, c'est une harmonisation de deux récits qui sont pas compatibles. De toute façon, qui sont pas compatibles, mais donc qui sont différents. Et donc pour moi, c'est super important que les enfants aient conscience que dans la Bible, il y a des récits qui sont contradictoires. Parce que le problème dans les livres pour enfants, et même pour adultes, c'est que les auteurs harmonisent toujours et ils présentent toujours qu'un seul récit unifié qui masque les incohérences des récits, tandis que là, on va dire, ben non, il y a deux histoires, et en fait, ces deux histoires-là, elles fonctionnent pas ensemble, elles peuvent pas être vraies toutes les deux. Et puis aussi, donc ça, c'est pour la contre-apologétique, et puis on va aussi à parler d'un petit peu d'astronomie amateur avec expliquer d'un point de vue astronomique, de manière très simple, évidemment, hein, c'est pour des enfants de 5 ans, le solstice d'hiver, hein. C'est quoi le solstice? Donc, comme d'habitude, on va couvrir pas mal de choses. Ah oui, on parlera aussi du Saint-Nicolas. Donc, ça va être ça le sujet du Zach et Zoé tome 3. J'espère que ça vous enthousiasmera autant que nous. Pour nous, c'est un sujet c'est un sujet finalement assez important à traiter avec les enfants, je pense. Et même avec les adultes. Et alors, oui, c'est vrai, on me demande. Ouais, parfois, les gens ne se rendent pas bien compte, mais finalement, Zach et Zoé, ça nous demande beaucoup de temps, hein. Beaucoup de travail. En tout cas, moi, ces derniers mois, j'ai lu des articles, et j'ai lu trois ou quatre livres, plusieurs en anglais, un en français, sur l'origine du Père Noël. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'origine du Père Noël est vraiment. C'est très complexe d'un point de vue historique. Par où s'est passé tous les chemins qui ont amené à la fête de Noël telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, évidemment, j'ai dû, pour Zach et Zoé tome 3, là, on a dû condenser ça ou simplifier ça ou présenter ça de manière très accessible. L'idée, juste, de toute façon, simplement pour des enfants, l'idée que le Père Noël, c'est une création culturelle relativement contemporaine, qui date du 19e siècle, hein. Si les enfants comprennent ça, c'est déjà formidable. Mais c'est vrai que moi, j'ai lu pas mal de livres sur l'origine du Père Noël avec les débats où les différents historiens essayent de déterminer quel est le chemin sinueux qui a amené à la fête de Noël telle qu'on la fête maintenant. C'est assez passionnant, vraiment, en termes de folkloristique. Mais donc, ouais, j'ai dû pas mal me plonger là-dedans. Et puis, une fois qu'on a fait ça, à chaque fois, pour chaque chapitre, on se retrouve moi et Marius et on passe une après-midi, enfin quelques heures à scénariser. Et puis après, Marius doit dessiner. Et puis une fois qu'il a fait des premières versions, on se retrouve via Skype, puis on commente, puis après on remodifie, puis on retravaille le texte pour qu'il sonne plus naturel, puis après on le renvoie à des relecteurs, puis après on prend compte des remarques des relecteurs. Enfin, alors dans l'autre, ça prend beaucoup de temps de faire Zach et Zoé. Mais du coup, c'est du temps parfois que je n'ai plus pour faire le podcast. Et c'est pour ça que parfois, quand je suis en pleine période, comment dire, de travail vraiment, ou particulièrement quand je dois faire la scénarisation des Zack et Zoé, j'ai un peu moins de temps pour faire le podcast. Et je parle évidemment pas de faire l'Ulule, de faire le financement qui prend aussi du temps, faire la promotion. Et puis Marius qui doit envoyer tous les exemplaires, ça bouffe du temps. Et puis une fois qu'on a terminé le cycle recommence pour un nouveau tour. Donc, oui, pour ceux qui se demandaient, Zack et Zoé, ça prend un petit temps à faire. Hein. C'est pas, on claque pas des doigts et il n'y a pas un volume de Zack et Zoé qui se matérialise comme ça par magie. Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Parlons un peu des écoles Stirner-Waldorf et de ma position sur le sujet. Donc la question c'était qu'on m'a posé. La personne me demandait qu'elle désirait mieux comprendre mes critiques envers l'anthroposophie et la pédagogie Steiner. Donc voici ce que j'ai écrit en réponse. La réponse la plus simple est qu'adolescent, je lisais énormément de néo-occultisme, Blavatsky, etc. J'ai donc lu aussi du Rudolf Steiner, des ouvrages de lui, mais aussi une biographie, une présentation du Goetheanum, etc. Le Goetheanum, c'est un centre de l'anthroposophie. Là, je paraphrase, hein, je ne l'avais pas mis dans mon message, mais dans mon email. Mais le Goetheanum, c'est un centre de l'anthroposophie qui se trouve en Allemagne et qui a été construite dans une architecture très particulière, inspirée évidemment de la pensée de Steiner. Et qu'on peut. Je ne sais pas si on peut encore le visiter, ça fait longtemps que je me suis peu penché sur le sujet, mais à l'époque, évidemment, c'était un peu. Enfin, ça a été pendant, ou probablement c'est toujours, une curiosité un peu architecturale que les gens vont voir. Enfin voilà, c'est comme quand vous avez un nouveau mouvement religieux qui construit un bâtiment inspiré par ses principes dans une région. Forcément, vu la bizarreté que c'est architectural, ça attire l'attention des gens. Donc c'est ça le Goetheanum de Goethe, ça vient de Goethe évidemment, l'auteur allemand qui a inspiré, enfin qui était que Steiner aimait beaucoup. Même à l'époque, donc à mon adolescence, hein, je ne croyais pas dans les théories néo-occultistes, mais je les trouvais fascinantes par leur extravagance. Oui, donc on peut parler de l'occultisme, et c'est vrai qu'il y a, là aussi je paraphrase toujours, hein, il y a l'ésotérisme, l'occultisme et le néo-occultisme, hein, pour moi. L'ésotérisme, c'est des théories dites cachées, qui enseignent des révélations sur le monde, tout ce qui est des enseignements par des sociétés secrètes, qui remontent un peu à. Même les mystères dans l'Antiquité, etc., avaient un enseignement ésotérique par opposition à un enseignement exotérique. Un enseignement exotérique, c'est quand tout le monde peut le connaître. Ésotérique, c'est quand ça reste caché, qu'on le donne seulement à quelques initiés. Mais alors, par la suite, c'est devenu un peu l'occultisme, hein, donc, avec des théories sur magie, etc. Et au XXe siècle, ça s'est transformé on parle plutôt de néo-occultisme avec les renaissances de justement Steiner, Blavatsky, bon avant ça il y avait Aleister Crowley, tous ces gens-là. Donc ces gens-là, quand on arrive vers le XXe siècle, on a tendance à parler de néo-occultisme. Et donc c'est des courants de pensée qui ont eu en fait beaucoup d'importance sur peut-être que les gens sous-estiment hein, finalement l'importance de ces courants de pensée sur la culture occidentale. Par exemple, l'œuvre de Lovecraft a eu beaucoup d'importance et Lovecraft a réutilisé pas mal d'idées qu'on trouvait en théosophie, hein. Même si lui n'y croyait pas, c'était quelque chose de très populaire à son époque. Donc, il cite, par exemple, Lovecraft cite souvent les ouvrages de Blavatsky dans ses écrits, etc. Même s'il n'y croyait pas, il trouvait un terrain fertile pour ses idées. Donc, même à travers la science-fiction, etc. Les idées néo-occultistes ont quand même vraiment infiltré, influencé toute la culture occidentale et se trouve, on baigne un peu dedans. Et alors évidemment, l'astuce, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, les idées néo-occultistes se sont transformées, c'est devenu ce qu'on appelle actuellement le Nouvel Âge, ou le New Age. Et donc c'est en permanente transformation. Donc, je reprends. Même à l'époque, je ne croyais pas dans les théories néo-occultistes, mais je les trouvais fascinantes par leur extravagance. J'ai ainsi découvert l'éventail des idées bizarres de Rudolf Steiner, allant du fait que nous sommes des réincarnations des âmes des Atlantes, le fait qu'il affirmait pouvoir voir l'aura des âmes. Si mes souvenirs sont bons, il racontait avoir vu l'âme de Nietzsche alors qu'il l'a visité lorsqu'il était déjà très malade, etc. Bon, là, c'est les choses que j'ai lues quand j'étais adolescent, donc il faudrait que j'aille me replonger là-dedans, mais c'est les souvenirs que j'en ai. Hein. Alors, à l'âge adulte, mon intérêt pour le paranormal a fait que j'ai continué à lire les néo-occultistes. Blavatsky, fondatrice de la théosophie, dont l'anthroposophie est une secte au sens classique de la scission d'une religion. Hein, donc, l'anthroposophie, c'est une. Donc, Steiner était membre de la théosophie au départ, et à un moment, il a. Parce que la théosophie s'orientait plus vers la pensée orientale, extrême orientale. Particulièrement indienne, Steiner a rompu avec la théosophie et la formule anthroposophie qui est plus fondée sur l'occultisme occidental, le christianisme, etc. Donc Blavatsky a été prise en flagrant délit de fraude de pouvoirs paranormaux par un membre de la Society for Psychical Research, donc la Société pour la recherche psychique ou métapsychique. C'est là une société de parapsychologie à l'époque où on n'appelait pas encore ça de la parapsychologie, mais recherche métapsychique. Hein. À la fin du 19e, ils ont envoyé quelqu'un étudier Blavatsky pour voir si ses pouvoirs paranormaux étaient réels, et il l'a surpris. Si mes souvenirs sont bons de mémoire, elle faisait apparaître des messages. Il y avait des messages qui apparaissaient dans une sorte de mur. Des messages qui étaient supposés venir d'entités supérieures, un truc comme ça. Et il a déterminé que c'était un trucage d'illusionniste. Et donc il a fait un rapport assez long sur le sujet, qui a évidemment pas beaucoup plu aux théosophes et aux fans de Blavatsky. Mais donc c'est marrant, puisque vous voyez que la société métapsychique britannique, qui est une organisation de proto-parapsychologie. La parapsychologie, c'est le terme qu'on utilise à partir du XXe siècle. Donc là, on est à la fin du XIXe. Théoriquement, c'est un truc qui pourrait être critiqué par les sceptiques comme étant une organisation de tenants. Enfin, full disclosure, j'en ai été membre à un moment donné. Hein. Ça existe toujours, la SPR. En plus, ils ont une publication qui est assez sympa, hein, une revue scientifique où ils publient des articles sur le paranormal. Enfin, si vraiment je dois donner les détails, c'est parce qu'en fait, je suis membre de la Parapsychological Society, donc l'association parapsychologique, qui est la plus grande association de parapsychologie au monde. Et en fait, c'est vrai que, bon, comme je suis un amateur, entre guillemets, ça revient un peu cher d'être membre à la fois de la Parapsychological Association et de la Society for Psychical Research. Bon, si ça coûtait moins cher de faire partie de ces organisations, je serais membre des deux. Hein, c'est une question financière. Les deux publient une revue scientifique, et quand on est membre, on reçoit la revue scientifique, c'est la revue scientifique qui m'intéresse. Hein. Mais je dirais que des deux, la Parapsychological Association a une revue scientifique d'un meilleur niveau que l'autre. Mais la SPR a une revue assez sympa quand même. Bref. Oui, donc la SPR, ça pourrait être une organisation qu'on serait amené à critiquer en tant que sceptique, mais ils ont quand même fait des choses critiques comme ça, comme ce dossier critique de Blavatsky. Bon, ceci dit, évidemment, il y a des auteurs qui ont, au fur et à mesure des années, essayé de défendre Blavatsky malgré ce rapport, donc de dire que le rapport n'était pas objectif et que Blavatsky avait réellement des pouvoirs paranormaux. Bon, enfin, mon opinion, c'est évidemment que non. Donc, je me suis aussi intéressé au fait du Cottingley, entre autres pour mon livre Pour en finir avec le paranormal et aux croyances théosophiques d'Arthur Conan Doyle. Donc évidemment qu'Arthur Conan Doyle était membre de la théosophie. Dans la théosophie, on parle des fées, quelque chose qu'on retrouve à l'heure actuelle dans le Nouvel Âge. Et donc une des raisons pour laquelle Arthur Conan Doyle a cru dans les photos des fées du Cottingley, parce qu'évidemment il était théosophe, ce qu'il prédisposait à croire que ces photos étaient authentiques. Et je me suis aussi intéressé à l'influence des idées théosophiques sur l'œuvre de Lovecraft et ainsi de suite, ce dont j'ai déjà parlé. Le contre-argument qu'on oppose toujours est que les écoles Steiner ne sont pas très influencées par les idées étranges et bizarres de Steiner. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on lit partout pour le moment. Les gens concèdent généralement, ce qui m'étonne, hein. Enfin, je sais pas, parce que généralement, je suppose que les gens qui défendent les écoles Steiner-Waldorf sont des anthroposophes, mais bon. Ils concèdent généralement que les idées de Steiner sont bizarres, mais bon, ils disent, ouais, même si les idées de Steiner sont bizarres, les écoles Steiner-Waldorf sont formidables, donc voilà, c'est ça l'argument. Je pense qu'il y a des raisons de penser le contraire. Par exemple, dans cette étude-ci, que je cite par après, le titre de l'étude, c'était une étude que j'ai trouvée. Bon, en utilisant Google Scholar, hein, comme tous les scientifiques, et c'était une étude qui s'appelle International Survey of the Status of Waldorf Schools par Earl J. Ogletree. Bon, ça date, hein. Je sais plus où j'avais, c'était de quelle année il avait fait ça. C'est pas un truc récent. Donc on pourrait toujours objecter que un contre-argument à cette étude-là, ça serait que son étude serait valable à son époque, mais plus maintenant. Oui, ça date de 98, voilà. Publication date 1998. Mais enfin bon, lui, ce qu'il avait trouvé, c'est que dans son étude, c'était un sondage, une étude par sondage des gens qui avaient été dans une école Steiner-Waldorf, et sa conclusion, c'était que 70% thought that Waldorf education influenced students to be open to the spiritual world and anthropology. Donc, dans sa conclusion, il avait trouvé que 70% des gens qui avaient fait une école Steiner-Waldorf pensaient que l'éducation Waldorf influençait les étudiants à être ouverts à la spiritualité et particulièrement à l'anthroposophie. Ce qui est un point important, parce qu'évidemment, vous allez voir que généralement, les gens vont me dire, oui, mais c'est pas. Le contre-argument, c'est classique, c'est les écoles Steiner-Waldorf. Les gens qui font ces écoles, ils sortent pas anthroposophes, quoi. Tous les enfants qui sortent de ces écoles-là sont pas des anthroposophes. Je crois que c'est une idée un peu naïve de s'imaginer qu'on aurait des écoles qui feraient de l'endoctrination comme ça, où tous les enfants seraient ils seraient tous convertis, paf, à l'anthroposophie. En fait, c'est une sorte de conception en tout ou rien. Soit les écoles Steiner-Waldorf n'ont pas d'influence anthroposophique, soit tous les enfants devraient sortir convertis à l'anthroposophie. Bah non, évidemment, on est face à un continuum. Ici, on voit que ce continuum, pour moi, est à l'œuvre, c'est-à-dire que oui, ils disent pas, ce sondage ne dit pas, oui, on s'est tous convertis à l'anthroposophie en sortant, mais 70% des gens qui ont répondu à ce sondage, qui étaient des anciens élèves, ont dit, on était influencés. Et c'est tout, en fait, c'est cette influence qui est là. Qui peut poser problème à des sceptiques, aux zététiciens, je pense. Alors après, je parle de Grégoire Perra, je dis Grégoire. Bon, c'est vrai que Grégoire Perra, évidemment, il est très actif dans la critique de l'anthroposophie, et évidemment, les anthroposophes lui ont répondu, et ont montré parfois certains problèmes dans ce qu'il disait. Alors à ce propos-là, ce que j'écris, c'est que Grégoire Perra est probablement critiquable sur certains aspects, qui ne l'est pas. Mais il souligne par exemple que les excursions scolaires sont une occasion pour introduire des idées anthroposophes par la bande dans les écoles Waldorf. Il est aussi documenté que les écoles Waldorf sont des foyers d'anti-vaccination aux USA et ailleurs. Voilà, donc moi je prétends pas que du tout que Grégoire Perra est au-delà de toute critique. Hein, et il y a certainement des critiques que lui font les anthroposophes quand il analyse les textes des anthroposophes qui sont légitimes. Ça me pose aucun problème. Hein. Comme je dis, personne n'est parfait. Pour moi, ma critique de l'anthroposophie, elle vient pas spécialement de Grégoire Perra. Hein, j'ai pas attendu Grégoire Perra. En fait, la seule chose qui a changé, c'est que, enfin, ce que je dis là, je l'ai toujours pensé à propos des écoles Steiner-Waldorf. La seule chose, c'est que Grégoire Perra, il a rendu le sujet beaucoup plus visible dans la communauté sceptique ou zététique. Il y a pas mal de zététiciens qui semblent avoir découvert ça, mais comme je le dis, moi, je connaissais Steiner depuis que j'étais adolescent, donc ça fait 30 ans au moins. Enfin, 30 ans, ouais. Donc moi, j'ai rien découvert là. La seule chose que j'ai redécouvert avec lui ou découvert avec lui, c'est que j'imaginais pas que l'anthroposophie avait tellement d'influence à l'heure actuelle. Je sous-estimais son influence. Je savais que l'organisation existait, mais je pensais pas qu'elle était aussi influente à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il l'ait souligné, qu'il nous ait fait remarquer. Mais bon, c'est comme d'autres organisations du même genre, hein, la Scientologie ou je sais pas moi, toutes ces organisations. Après, c'est toujours difficile d'évaluer leur influence réelle. Hein. Et c'est vrai que ça me fait poser des questions sur d'autres organisations comme les Rosicruciens, enfin d'autres organisations néo-occultistes, à quel point elles existent à l'heure actuelle. Parfois, c'est vrai qu'elles. Par exemple, j'ai une connaissance qui vient parfois à Sceptico Pub, qui a été active dans le mouvement Rosicrucien, qui est une autre organisation un peu une sorte de variante un peu bizarre des francs-maçons où ils ont des pratiques magiques aussi, etc. Et c'est vrai que ça passe peut-être en dessous du radar des zététiciens et des sceptiques, et je sais pas très bien quelle est l'influence. Est-ce que cette organisation, est-ce que les Rosicruciens, ça vivote? Est-ce que ça existe encore de manière importante? Est-ce que ça a une influence importante? C'est vrai que parfois, ces organisations, on n'est peut-être pas assez vigilant, on n'a pas peut-être pas assez de vigilance de ce côté-là. Je reviens à ce que j'ai écrit. Pour moi, la question est très similaire à l'enseignement catholique en Belgique. Donc voilà, là, c'est un truc très important pour moi. Hein. Souvent, on va parler de secte, on va parler d'endoctrinement, etc. Moi, je parle, j'aime pas tout ce vocabulaire. Hein. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre religion et secte. On peut dire qu'il y a des dérives sectaires. Alors, on va me dire qu'il y a des dérives sectaires dans les religions. Et puis moi, je répondrai toujours, il y a des dérives religieuses dans les sectes. C'est un peu Chouverts et Verchoux pour moi, les sectes. Enfin, je veux dire, on sait bien, là, il n'y a pas de critères objectifs qui permettent vraiment de différencier une secte d'une religion. En général, c'est juste sociologique, hein, que dans une société X, une religion a plus de prestige qu'une secte. Et souvent, les plus grands adversaires des sectes, évidemment, c'est en réalité les gens qui proviennent des religions comme le catholicisme, etc., qui sont plus installés. Et puis évidemment, les sectes ont tendance à être plus contemporaines, plus nouvelles, plus récentes que les religions, quoi. Mais à part ça, donc pour moi, en fait, j'aime bien comparer les nouveaux mouvements religieux avec les religions. Je veux dire, donc ici, je vais comparer les écoles catholiques aux écoles Steiner, Waldorf Steiner. Alors, bon, évidemment, est-ce que vraiment l'anthroposophie est une religion? Bon, je pense pas que eux se vivent comme étant une religion. Ils vont parler, voilà, de spiritualité, ils vont parler de... Ils ont l'impression que ce qu'ils font, c'est de la, entre guillemets, science. Mais vous savez bien que c'est avec les idées bizarres de Steiner sur l'agriculture, etc. Mais pour moi, en fait, c'est un mouvement de nature religieuse. En réalité, tous les mouvements néo-occultistes sont des mouvements de nature religieuse et pas, même si eux ne s'identifieront pas comme tels, probablement. Donc, on va comparer des enseignements religieux. Il y en a en Belgique, il y a un enseignement catholique, et il y a aussi des écoles juives, musulmanes. Donc, des enseignements religieux, il y en a. Hein. Et donc, pour moi, c'est la comparaison légitime, comparer des écoles catholiques ou des écoles religieuses avec des écoles Steiner-Waldorf. Donc pour moi la question est très similaire à l'enseignement catholique en Belgique. Je ne mets pas non plus mes enfants dans une école catholique. On m'objecte sans arrêt, oui mais écoute, les écoles catholiques n'ont plus rien de catholique. Alors l'école catholique la plus près de chez moi a une église, des crucifix dans les classes, une statue de la Vierge dans la cour de récréation, et les parents me disent encore non, non, mais ça ne t'inquiète pas, ça n'a plus rien de catholique, tu sais. C'est vraiment marrant parce que... Ouais, l'environnement est clairement catholique, hein. D'ailleurs, dans l'église, l'école la plus proche de chez moi, il y a une église qui est adjointe à l'école. Il y a un presbytère, donc il y a forcément un prêtre, hein. Mais c'est bizarre cette idée que les écoles catholiques n'ont rien de catholique. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Maintenant, je peux vous donner un autre détail, deux autres détails du même style dans l'enseignement en Belgique, hein. Après avoir écrit cet email, il y a une semaine ou deux, je suis allé dans une autre école catholique de la région qui s'appelle le Christ Roi, donc ça donne une idée, hein. C'était parce que mon fils avait une épreuve, un test de natation à aller faire là-bas. Donc j'y vais pas souvent, une fois par an, pour le test de natation, le test des 100 mètres. Hein. Pour, cette année, c'était le test des 100 mètres pour mon fils. Parce qu'ils ont une piscine dans leur école, parce que les écoles catholiques ont de l'argent. Et j'arrive dans l'école catholique, et qu'est-ce que je vois? Parce qu'on est à la période de Noël. Dans le hall de l'école, il y a une crèche. Il y a une crèche avec une statue de Marie, de Joseph, de Jésus. Donc on me dit, ouais, les écoles non catholiques n'ont rien de catholique, mais quand de temps en temps je vais dans une école catholique, il y a une crèche dans la cour, dans le hall de l'école. Moi je veux bien, mais enfin, cette idée que les écoles catholiques n'aient rien de catholique, sont très bizarres. Et voilà, et donc quand j'étais prof de... Alors, donc en fait moi j'ai fait la philosophie, hein, à l'UCL, qui est une école catholique, à l'université catholique. J'en reparlerai après aussi. Mais donc, un des trucs vraiment bizarres dans l'enseignement en Belgique, c'est que si on fait la philosophie à l'UCL, qui est une école catholique, on ne peut pas enseigner la philosophie dans... De toute façon, il n'y a pas vraiment de cours de philosophie en Belgique. En tout cas, oui, enfin, bon, maintenant, il y a le cours de citoyenneté, enfin, il y a tout un bazar avec ce truc-là. Mais enfin, un vrai cours de philosophie, comme le bac philo en Belgique, il n'y a pas vraiment... Il y a quelques écoles qui instaurent ça, mais la plupart des écoles n'ont pas ça. Donc, quand on a fait la philosophie, on doit enseigner... Soit la religion, soit la morale. Quand on a étudié la philosophie, c'est complètement dingue, mais bon. Mais en plus, comme j'ai fait l'enseignement, comme j'ai fait la philosophie à l'UCL, je pouvais pas, quand je postulais pour être prof de morale, on me disait, donc dans les écoles publiques, hein, parce que dans les écoles catholiques, forcément, il y a que la religion catholique qui est donnée. Mais donc dans le public, si je postule et que je dis que j'ai étudié à l'UCL, on me disait, mais vous pouvez pas donner les directeurs d'école me disaient, mais vous avez fait l'UCL, il faut donner la religion catholique. Si vous avez fait l'UCL, c'est que vous êtes catholique, non? C'était un des trucs les plus dingues que j'ai vécu. Mais donc je me suis retrouvé à enseigner la religion catholique quand j'étais au chômage. C'était avant de trouver des heures de japonais, ce qui m'a sauvé de ce problème. Je me suis retrouvé à enseigner dans le catholique, la religion catholique. Parce que j'avais pas le choix. Je devais bien travailler, gagner ma vie. Enfin, j'avais déjà mon premier enfant venait de naître. Et c'était la seule chose que je pouvais faire avec mon diplôme de philo. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai fait des entretiens. Et par exemple, dans ma région, et je suis allé, donc c'est une école catholique, une troisième école catholique dans ma ville, ou pas loin de ma ville. Hein, donc, dans ma ville, il y a trois grandes écoles catholiques. Donc, la première, c'est celle où il y a des crucifix partout. La deuxième, c'est celle où il y a une crèche pour le mois de décembre dans le hall. Et la troisième, je vais voir le directeur en disant, j'aimerais bien enseigner chez vous. Et il commence à me poser des questions sur les courants nonnes qui ont influencé la création de l'école là. Ouais, donc en fait, les écoles catholiques ont vraiment absolument rien de catholique, hein, c'est clair. Enfin, je sais pas pourquoi les gens pensent ça. Enfin, ils ont là. Oui, non, mais je sais pourquoi ils pensent ça. Parce que l'argument, c'est quand mes enfants sont sortis d'une école catholique, ils ne sont pas convertis au catholicisme. Ce qui est l'argument qu'on va nous dire pour les trucs Steiner Waldorf, mais c'est exactement la même chose. C'est une pensée en tout ou rien, comme ça. Les écoles catholiques, elles sont catholiques. Mais c'est pas pour ça que c'est vrai que c'est pas de l'or. Ils manipulent pas, enfin c'est pas de l'endoctrinement au point que tous les enfants qui sortent soient catholiques, mais s'imaginer que les écoles catholiques en Belgique n'aient rien de catholique, c'est vraiment s'illusionner. Hein. Revenons à ce que j'ai écrit. La seule école catholique que j'ai faite est l'Université catholique de Louvain, on en a parlé. Et on tient le même discours que l'Université catholique de Louvain, c'est bien connu, c'est absolument rien de catholique. Or, par contre, évidemment, en psychologie, j'ai eu un cours de théologie obligatoire. Dans ce qu'on appellerait maintenant la maîtrise. Ça, c'était pour la psycho, donc j'ai eu un cours de théologie chrétienne qui faisait partie de mon cursus. En philosophie, quand j'ai étudié la philo, puisque j'ai aussi fait la philo, là, je me suis farci des cours imposés de Thomas d'Aquin, parce que ça fait partie, c'est un mandat papal, si mes souvenirs sont bons, le pape a demandé à ce que les. Je sais plus. Enfin, en tout cas, ça vient du Vatican directement, du Vatican. Ça, je m'en souviens parce que ça avait été expliqué dans le cours. Le pape demandait que donc les idées théologiques enfin, ou théophilosophiques de Thomas d'Aquin soient enseignées dans les universités catholiques. Je sais pas si, en fait, je sais plus si c'était spécifiquement pour l'UCL ou si c'était pour toutes les universités catholiques. Mais donc, en tout cas, moi, je me suis farci un cours de Thomas d'Aquin parce que le Vatican l'a souhaité dans mon cursus de philosophie. Et évidemment, plusieurs de mes professeurs en psychologie, en philosophie étaient des prêtres. Il y avait aussi des prêtres défroqués, ce qui est toujours marrant. Mais donc, on m'assure que l'ICL n'a absolument rien de catholique. Bon, évidemment, je veux bien que si vous faites la chimie ou la physique, il n'y a pas tellement de. Enfin, et encore, moi, j'ai pas fait ces études-là, donc j'en sais rien. Mais je suppose que si vous faites des sciences exactes, l'influence du catholicisme n'est pas très grande. Mais vous voyez qu'en psychologie, cours de théologie, en philosophie, philosophie de Thomas d'Aquin, etc. Donc, il y a quand même clairement une influence du catholicisme sur l'UCL. Il faut quand même pas. Ouais, souvent, les recteurs sont des prêtres, etc. Finalement, je pense que l'argument est plutôt, je connais des enfants qui ont suivi un cursus dans une école catholique et qui ne sont pas devenus catholiques. Donc on revient sur cet argument central. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas exactement le même argument. Je suis certain que des enfants sortent de l'enseignement Waldorf sans être des anthroposophes convaincus, mais là n'est pas vraiment le problème, c'est ce que j'essaie d'expliquer ici. Mais même si les écoles Waldorf n'avaient rien de la pensée de Steiner, mais rien du tout. Même si réellement il n'y avait pas d'influence de la pensée de Steiner sur la pédagogie Steiner-Waldorf, je suis dubitatif, hein, mais bon, admettons. Admettons. Même si les écoles catholiques n'avaient absolument rien de catholique, hein, donc les idées catholiques n'étaient pas infusées dans l'enseignement des écoles catholiques, je ne mettrais quand même pas mes enfants dedans, tout simplement par conviction. Je ne suis ni anthroposophe, ni catholique. C'est comme j'irais pas mettre mes enfants dans une école musulmane ou une école juive. Moi, je suis un athée, je suis un humaniste séculier. Je vais pas aller mettre mes enfants dans des écoles religieuses. Ça me paraît évident, mais je comprends pas. Ma conviction profonde est que l'enseignement doit être a-religieux et sécularisé. Et en Belgique, c'est pas encore gagné, hein, parce que vous savez bien qu'on a eu un cours de religion. Enfin, il y avait, dont avec une des religions, c'était la morale. Bon, la morale laïque, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, en tout cas, la première chose qu'on demande aux enfants quand on arrive à l'école primaire, c'est quelle est la religion de votre enfant, hein? Alors maintenant, évidemment, il y a le cours de citoyenneté, et puis il y a l'abstention, c'est leur nouveau truc qu'on appelle la citoyenneté. Il y a citoyenneté plus citoyenneté 2, on appelait ça le cours de rien. Enfin, je vais pas me rentrer là-dedans, mais. Du coup, quand l'institutrice m'a demandé cette année, votre enfant, il est dans quelle religion? Je lui ai dit, il est dans la religion de rien. Elle m'a regardé avec des yeux un peu en disant quoi? Bon, après, j'ai dit, mais non, il est en abstention. Il s'abstient d'avoir une position. Mon fils, il a 8 ans. Il est ni athée, ni catholique, ni protestant, il est juste rien. Quand il sera grand, il pourra décider lui-même ce qu'il veut être. Mais à 8 ans, les enfants, ils sont rien. C'est les parents qui sont des choses, généralement, mais les enfants, ils sont rien. D'où le fait que mes enfants vont dans une école publique. Même si malheureusement, en Belgique, cela ne fait pas qu'elle soit ré to réellement totalement sécularisée, comme je viens de l'expliquer. Mais c'est le meilleur choix qui s'offre à moi. En termes de conviction personnelle, je ne souhaite pas que mon argent aide financièrement un établissement catholique et donc le catholicisme par la bande. Il en va tout simplement de même pour les écoles Waldorf et l'anthropologie. Même si les écoles Steiner Waldorf n'avaient absolument rien d'anthroposophique, je ne vais pas aller mettre mes enfants là-dedans parce que ça, d'une certaine façon, ça soutient quand même financièrement, etc. Ou en termes d'image, c'est quand même une forme de soutien à l'anthroposophie. C'est comme s'il y avait une des écoles scientologues ou mormones ou que sais-je, ou de la Soka Gakkai. Je vais pas aller mettre mes enfants là-dedans, même si je m'imagine, bon, je pense que je m'illusionnerais, mais que ces courants de pensée n'ont pas d'influence sur ces écoles. Mais je vais pas aller soutenir ces mouvements en mettant mes enfants dans ces écoles-là. J'espère que cette longue réponse t'éclaire un peu sur ma position. Voilà. Et alors, évidemment, évidemment, mais je veux dire, c'est un contre-argument classique. Je veux dire, la personne en question m'a répondu très poliment et elle m'a dit, ben oui, mais je trouve que l'école Steiner-Waldorf, et ça, c'est un argument qu'on lit tout le temps, que c'est un bon enseignement, ça donne des bons résultats. Bon. Je ne me suis pas vraiment penché sur la littérature, mais moi je veux bien le croire, hein, que la pédagogie Steiner-Waldorf, elle donne des bons résultats en termes d'enseignement. Mais je vais vous donner la même chose. Les écoles catholiques dans ma commune, je sais bien qu'elles sont meilleures que l'école publique dans laquelle j'ai mis mon fils. Ben, pourquoi? Ben, déjà, elles ont plus d'argent. Et ensuite, elles ont des avantages, hein. Bon, elles sont forcément, les gens pensent qu'elles sont plus prestigieuses, donc les meilleurs élèves vont là-bas. Mais aussi, évidemment, un élève qui est en échec de manière très importante, les écoles publiques sont bien obligées de l'accepter, tandis que les écoles catholiques, elles peuvent se permettre de renvoyer les moins bons élèves, hein. Donc, en fait, il y a un cycle que j'observe tout le temps, qui est que les écoles catholiques renvoient les élèves à problème. Et puis ces élèves, ils atterrissent dans le public, et là, les directeurs du public, ils ont moins de latitude pour renvoyer des élèves. Et donc, forcément, tous les mauvais élèves atterrissent dans le public. Parce que le public, bah forcément, c'est le public, quoi. Ils sont bien. On ne peut pas avoir ces enfants qui soient à la rue, etc. Hein. Donc, c'est facile pour les écoles catholiques d'être des bonnes écoles. Hein. Il suffit qu'elles virent tous les mauvais élèves. C'est un truc de sélection. Enfin, bon, bref. Et puis en général, elles ont plus d'argent puisqu'elles reçoivent non seulement les fonds publics, plus l'argent qui vient du catholicisme. Mais donc, de facto, dans ma commune, les écoles catholiques sont meilleures que l'école publique. Et ça, je le sais bien, parce que moi, je suis prof, et un de mes meilleurs copains est prof de maths. Et quand il était en début de carrière, il y a quelques années, il a fait des remplacements dans la plupart des écoles de la région. Et il m'a dit, l'école publique, où j'ai mis mon fils, En termes d'enseignement des mathématiques, c'est la moins bonne. Et toutes les écoles catholiques, elles ont des meilleurs enseignements de mathématiques. L'idée qu'on me donne, c'est que je devrais, comment dire, contrevenir à mes convictions et mettre mes enfants dans le catholique parce que l'enseignement catholique est le meilleur. En fait, je devrais courber l'échine et dire, ah oh bah tant pis, hein, c'est vrai que l'enseignement catholique, il est quand même plus performant, hein, ils ont de meilleurs moyens, etc. Donc je vais aller mettre mes enfants là-bas malgré le fait que je ne suis pas catholique. Et c'est ce que font la grande majorité des parents. Hein. Tous les parents me disent, ben bah oui, bah, ces écoles catholiques, elles ne sont pas vraiment catholiques. Donc et comme l'enseignement il est meilleur, c'est logique que j'y mette mon fils. Et ben moi je ne suis pas d'accord avec ça, je suis désolé. Je pense qu'il faut avoir un certain nombre de convictions. Et je pense qu'on peut. Il y a des moyens. Donc évidemment, forcément que je m'inquiète un peu pour mon fils puisqu'il est dans une, entre guillemets, pas si bonne école par rapport aux autres écoles. Mais il y a moyen de contourner ce genre de problème, hein, de suppléer à ça. Voilà, moi je lui lis des livres de science, je lui lis plein de trucs. Quand il sera plus pré-ado, je l'emmènerai aux événements sceptiques, après sceptique au pub. Je le mets dans des stages. Il y a des stages de science. Et alors bon, évidemment, moi c'est un cas particulier, mais il va à l'école japonaise le samedi matin, et là il a un supplément de maths. Mais bon, pour quelqu'un qui n'est pas japonais, il y a des écoles prises, comment dire, des écoles qui proposent des sub. On peut toujours avoir un prof particulier de maths, hein, pour donner un supplément de maths si on veut. Donc on peut toujours suppléer. C'est même pas une critique, hein, de l'école où mon fils est. Les profs qui sont dans mon école, de l'école publique où mon fils est, je suis sûr qu'ils font ils font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Hein. C'est pas, je critique pas les profs qui sont là. Mais voilà. Moi, je pense que, au contraire, je veux dire, en tant qu'athée zététicien, ma conviction et humaniste, c'est que je dois mettre mon fils dans le public parce que je dois soutenir le public. Moi, je pense que c'est vraiment une question de conviction athée. De conviction humaniste, de conviction même de zététicien, de pas aller mettre ses enfants dans des écoles religieuses. Et les écoles Steiner Waldorf, c'est des écoles religieuses, donc voilà, c'est tout. C'est ça ma position sur le sujet. Bon, bah, bref, si vous êtes zététicien et que vous avez vos enfants dans des écoles religieuses, j'espère que vous le prendrez pas de mal, mais en tout cas, c'est ce que moi je pense sur ce sujet-là. Voilà, c'était Jean-Michel Abrassard pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la prochaine fois, sceptiquement vous.